Aujourd'hui à l'émission Un temps pour parler, l'abbé Denis Veilleux s'entretient avec Emmanuel Godot, professeur dans un lycée et à l'Institut catholique de Paris, écrivain et poète. Cette première de deux entrevues a pour titre « Premières images de visage ».
L'émission étant pour parler, toujours agréable. Je rencontre différentes personnalités. Et aujourd'hui, Emmanuel Godot, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié aux éditions Salvatore, mais quel visage à ta joie, c'est ce titre qui m'a accroché pour vous rencontrer. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages.
Oui, une quinzaine,
ah oui,
je pense.
Oui.
Je ne les compte pas, je vous avoue. J'ai une première partie de mon travail qui a été consacrée à des essais littéraires.
Oui.
Sur des figures d'écrivains, de Victor Hugo à Huysmans, en passant par Claudel, d'autres encore. Et puis depuis quelques années, une inflexion vers une écriture plus personnelle, de création. Et ce texte fait partie des ouvrages plus intimes, ouvrant à peut-être un espace plus méditatif.
Très intéressant, Emmanuel Godot. Comment ce titre s'est-il imposé à votre récit ?
Ah, mais quel visage à ta joie est un vers d'un recueil de poèmes que j'ai publié l'an dernier chez Gallimard. Je n'ai jamais voyagé. Et dans l'un des poèmes, il y a ce vers, mais quel visage à ta joie. Et vous savez, l'écriture poétique a toujours quelque chose d'un peu mystérieux. Ce vers s'est imposé à moi comme une évidence. Il est à la fois limpide et en même temps, il renvoie à toute une expérience de vie. Et j'ai voulu peut-être dans ce texte en savoir un petit peu plus sur ce vers qui m'appartient, mais en même temps qui ne m'appartient pas fondamentalement. Et il me semble que ce sentiment de joie, oui, peut avoir un visage ou des visages, mais lequel ? Et puis ce mais qui m'interroge, parce que dans nos vies, nous perdons parfois le « là », nous perdons le « fil », et j'avais besoin de ce « mais ». Pour nous rappeler et pour me rappeler que le chemin de vérité, le chemin de et c'est parsemé d'obstacles, parsemé de doutes, parsemé de moments peut-être de plus grande vacuité, et peut-être aussi que nous sommes faits de en quelque sorte d'adversité, dans cet adversatif, ce mais. Il y a quelque chose qui me réveille aussi, qui réveille ma conscience, comme un « tout semble aller, je pourrais dérouler le fil d'une vie », et puis tout à coup, cette question « mais au fait, quel visage à ta joie ?»
Et on le reçoit, nous aussi, comme interpellation.
Le lecteur peut le recevoir,
oui,
comme interpellation.
Absolument. C'est ça qui nous attire, c'est ce qui m'a attiré, cette question « mais quel visage à ta joie ?»
Ce tutoiement, je m'aperçois qu'il est constant dans mon écriture depuis quelques années. Ça doit accompagner d'ailleurs le moment dont je parlais pour commencer vers un travail plus personnel. Il me semble que le jeu me dérange souvent. Il peut être quelque peu encombrant dans son, et notamment quand on écrit, dans quelque chose qui peut devenir un peu exhibitionniste, un peu impudique. Et donc j'ai souvent besoin de ce tu, enfin besoin, il vient spontanément ce tu, qui est à la fois une adresse à soi-même, l'auteur peut s'adresser à lui-même finalement dans une forme de, écrire c'est aussi en un certain sens se dédoubler, se poser la question et faire émerger peut-être une voix en soi qui n'est pas totalement mienne, quelque chose est autre, mêlé à moi-même. Et je suis dans ce tutoiement, c'est peut-être aussi effectivement la part de l'autre, et donc la part aussi du frère humain avec lequel je chemine tant bien que mal. Voilà, il y a tout ça dans ce tu.
La maison de votre enfance est précieuse. En quoi ?
Ah, oui, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que moi j'écris sans plan préétabli. Peut-être que c'est une réaction par rapport au à ma formation universitaire, où j'ai été formé à une façon de composer des livres. Il doit en rester quelque chose, je ne renie pas l'importance, évidemment, d'une certaine logique et d'un certain ordre qui s'impose à l'écriture. Mais j'ai besoin, dans l'écriture, d'une forme d'entière liberté. Et je me suis aperçu, effectivement, vous avez raison, que les premières pages d'un texte consacré au visage étaient consacrées spontanément à la maison d'enfance. Parce que cette maison a joué un rôle, je pense, clé dans mon existence, comme probablement dans l'existence de beaucoup d'entre nous. Ce premier royaume, moi je l'appelle un premier royaume, où les choses semblaient tellement réconfortantes, même s'il y avait des mystères, il y avait des choses inquiétantes dans cette maison.
C'est intriguant.
C'est intriguant, oui. Voilà. Un fantôme, on disait que la maison était hantée, donc on entendait, quand les boiseries craquaient, on disait c'est le fantôme François, il s'appelait, dans notre maison. Il avait un nom, il était très familier, il ne faisait pas vraiment peur, mais on savait que quelqu'un pouvait passer à tout moment. Et donc, oui, parce que c'est le début d'une vie. René Char, le poète, dit que nous commençons toujours notre vie sur un crépuscule admirable. Et c'est à la fois très douloureux, quelque peu nostalgique, ce contre quoi j'essaie de lutter aussi, mais en même temps, j'y vois maintenant quelque chose qui m'a donné aussi confiance dans l'existence.
De l'eau dans deux événements de votre jeune âge. Debout dans la baignoire à 2 ans et oups dans la piscine à 4 ans. Pour le poète que vous êtes, l'eau est-elle une parole ?
L'eau est-elle une parole ? Magnifique question. L'eau est-elle une parole ? Elle a quelque chose évidemment de baptismal. Ça oui. Dans les deux épisodes de l'enfance, ce sont deux anecdotes sur lesquelles je fixe un petit peu ma mémoire et j'entraîne peut-être mon lecteur dans des terres quelque peu, je mettrai des guillemets, mais à l'échelle d'un individu, je dirais des terres légendaires, c'est-à-dire que nous sommes façonnés d'une mythologie, d'éléments qui, en eux-mêmes, si je dis que dans cette baignoire, à 2 ans, je me lève, petit homme qui ne sait rien de la vie et qui regarde sa mère et qui lui dit « Alors, tu me sors du bain, vieille andouille !» et que la mère se met à rire, comme vous le faites, et non
oui,
pas
oui,
me
oui.
tancer.
On
voit le petit bonhomme. Ah, ça vous donne confiance formidablement, parce qu'il y a un amour plus grand que toutes les paroles, si on la prend au premier degré, cette parole, elle est évidemment à la fois d'une désinvolture et à l'égard d'une mère, d'un irrespect complet, mais quelque chose est plus fort que cela et révèle effectivement l'amour de la mère à ce moment-là. Et puis dans la piscine, c'est l'enfant qui tombe,
oui.
qui peut mourir. Il ne sait pas nager, c'est un petit peu plus tard dans son existence.
4 ans.
Oui, et le père saute à l'eau pour aller le chercher. Mais l'enfant est allé au fond de cette piscine et, par une sorte d'instinct de vie, a poussé sur ses pieds, ses jambes, et est ressorti de l'eau. Et ce qu'on va célébrer à ce moment-là, ce n'est pas, on ne va pas dire que l'enfant est maladroit, qu'il y a un problème de sécurité, etc. Non, on va admirer l'instinct de vie de l'enfant. Et donc, oui, dans les deux cas, l'eau s'accompagne d'une forme de parole de confiance qui résonne pour toute une vie, en fait, qui vous donne, avant même un enseignement, une sorte de confiance dans l'existence.
L'eau en mouvement est très présente dans votre roman. Il y a la rivière, tout
ouais.
ça, vous y revenez souvent.
C'est un motif qui est obsédant chez moi, peut-être. C'est un motif de confiance aussi, là encore. C'est-à-dire que sous la maison d'enfance passait un ruisseau que j'appelle une rivière souterraine, parce que ça passait sous la maison, enfin voilà, ça sous le jardin de la maison, et ensuite ça allait rejaillir probablement dans la campagne environnante. Et j'y vois on est au-delà de la métaphore ou de l'allégorie, parce que si je dis cela, on pourrait dire mais ça c'est une reconstruction, mais instinctivement, sensoriellement, l'enfant apprend que quelque chose vient de plus loin, va quelque part, et que un sens est là. Et cette rivière, je ne l'ai pas beaucoup vue parce que il y avait une petite porte. Il fallait ouvrir une porte pour la voir, pour y aller. Il y avait une voilà près d'un jardin dans la maison, et dans le jardin de la maison. Et j'ai des images, alors probablement idéalisées a posteriori, mais je vois une rivière extrêmement lumineuse et pas très profonde, quelque chose comme une sorte de rivière lumière, si je puis dire, ou une lumière faite rivière. Et j'ai toujours vu, là encore, un signe, même quand tu ne sais pas où tu vas, ça y va. Et ça y va, comme cette rivière, joyeusement, dans une forme de confiance plus forte que les outrages que l'existence peuvent faire à cette confiance, que les entorses, que les oublis, les défections innombrables que l'on peut avoir, mais à un moment donné, cette pensée qui revient, qui n'est pas une pensée, qui est une vision, qui est une image, et je trouve que ces éléments-là nous accompagnent, là encore. Souvent, nous sommes saturés de discours, et il me semble que ces images fondamentales d'une existence sont parfois, dans leur discrétion, dans leur humilité, parce que ça ne clame pas une vérité, ça dit simplement, il y a là une rivière qui sait où elle va, elle est infime, ça pourrait être un filet d'eau, et je pourrais dire c'est totalement insignifiant, mais non, c'est un fil qui se dévide et qui m'invite à la confiance.
Emmanuel Godeau, votre écriture est un éveil de tous les sens. Vous reconnaissez-vous ?
Un éveil de tous les sens, je vous remercie. Je le prends comme un compliment parce que... Alors c'est peut-être lié justement au poète que je suis ou l'écrivain que je suis n'oublie jamais le poète. C'est-à-dire que, effectivement, nos mots M-O-T-S que nous utilisons, dans un usage ordinaire ou fortement socialisé, sont parfois extrêmement aseptisés. Nous faisons, ce qui n'est pas mal d'ailleurs, des efforts de conceptualisation, des efforts de rationalisation. Tout cela est évidemment extrêmement précieux pour la construction de notre être ensemble et on établit une communauté de ce point de vue. C'est important. Mais combien de saveurs sont remisées, combien d'images fondamentales sont-elles oubliées par notre langage? Et il me semble qu'écrire, c'est précisément ramener dans l'ordre du langage, autant que faire se peut, l'entièreté de notre être au monde. Or, il y a dans notre être au monde des choses extrêmement fortes, même si elles sont infimes. Parfois, elles bousculent d'ailleurs notre langage. Allez décrire le goût d'une pomme dans la bouche. Allez décrire le goût et la fraîcheur de l'eau dans ce verre que je porte à ma bouche. C'est extrêmement difficile et pourtant c'est essentiel. Et donc, effectivement, il me semble que l'écriture... Alors, je vous remercie si vous me dites que c'est un éveil parce que je ne peux pas le maîtriser pleinement. J'essaye. Si vous l'entendez et si vous le lisez, c'est que quelque chose, peut-être, de ces échos d'une vie, de ce relief, est passé dans l'ordre du langage. Et... il me semble que nos dignités d'hommes, tellement mises à mal dans nos sociétés, parce que les images qui nous sont renvoyées sont tellement restrictives, tellement mutilées par rapport à la complexité intérieure d'un être, quel qu'il soit, quelle que soit sa culture, son origine, ça n'a rien à voir évidemment avec ces éléments-là. Combien tout cela nous rétrécit. Et donc l'écriture, je le pense, est essentielle aujourd'hui pour redonner une chance à ces aspects de nos êtres qui sont parfois, ou trop, et c'est un euphémisme de dire parfois, si souvent mis à mal.
Oui, c'est l'écrivain qui voit, c'est l'écrivain qui entend, c'est l'écrivain qui sent, qui respire, c'est l'écrivain qui vit, c'est ce qu'on retrouve dans votre écriture, éveil à tous les sens, c'est l'humanité.
Je l'espère, l'espère que c'est le plus humain en moi qui puisse écrire, c'est-à-dire aussi le plus vulnérable. C'est très paradoxal l'écriture, parce que c'est à la fois, il faut avoir, je pense, comme dit Rilke, pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup, beaucoup de villes, beaucoup de jardins, il faut s'être promené beaucoup dans la nature, avoir vu, avoir senti les choses directement. Donc il y a toute une expérience de vie qui est essentielle. Et il faut aussi, c'est quelque chose que je ressens fortement, peut-être parce que je suis enseignant, je suis professeur de littérature, et donc il me semble que ce n'est pas celui qui sait qui écrit, c'est précisément celui qui voudrait savoir, qui voudrait en savoir un petit peu plus que son propre savoir. Les mailles du filet laissent passer tant de choses dans nos savoirs, quels qu'ils soient, que l'écriture essaye peut-être de, dans ces mailles évidemment symboliques, mais de prendre un petit peu plus de ce que nous sommes.
Parlez-nous des paradoxes de la joie, ces mutations.
Ah, alors là, c'est un vaste sujet. Les paradoxes de la joie, il me semble que j'aime d'abord, et je rends hommage à cette joie-là dans le texte, dans un des chapitres du texte, il y a une forme parfois d'allègement. On a l'impression que dans certaines circonstances, tout va bien, on se sent léger, on pourrait avoir l'impression qu'on glisse dans la vie, je ne sais pas comment il faut dire, et que... on a tout à coup envie de chanter un air de... Ce sera du Charles... J'aime beaucoup Charles Trenet, alors...
Il y a de la joie.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie, bien sûr. Il y a quelque chose, les filles sont belles, c'est le printemps, etc. Donc là, on a envie de dire... Voilà, mais tout ça paraît tellement simple, tellement facile à certains moments. Et cette joie-là, je l'aime, cette joie-là, parce qu'elle a quelque chose de désinvolte, quelque chose d'insouciant comme la jeunesse. Et il ne faut jamais oublier que peut-être c'est dans nos vies un des premiers signes de la joie. Même si cette joie, quand j'avance dans mon expérience, dans mon parcours intérieur, mes lectures, mes méditations, mes rencontres, etc., je peux voir peut-être qu'elle a quelque chose parfois d'insignifiant, justement, de trop désinvolte dans la mesure où elle se croit seule au monde. Et elle ne voit pas ce vers quoi peut-être elle est tournée. Et à partir de là, donc, je déroule ce fil de la joie en me disant que je peux à un moment donné arriver par, je ne sais pas si c'est par palier ou par étape, je crois que tout ça est très complexe, peut-être d'où les paradoxes, je ne pense pas que nos vies soient linéaires, mais on peut arriver à un moment donné à avoir envie de dire merci. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental. La gratitude pour la vie donnée, l'amour donné par les êtres que nous avons, qui ont fait que nous sommes au monde. Et puis, par-delà, un grand amour, un immense amour nous est donné. Donc, je peux évidemment le nommer, le célébrer. Et j'ai envie de remercier. Ça, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Je ne sais pas si je suis un... extrêmement, je ne sais pas si ça relève d'une piété, je ne sais pas comment le nommer, mais c'est l'envie de prier chez moi est toujours liée à une gratitude. C'est toujours l'envie, pas rien demander, dire simplement merci. Et merci au plus grand, au plus grand amour qui soit. Et ce plus grand amour qui soit, ben, il se trouve que j'ai la chance de pouvoir le nommer et de dire Dieu, je peux nommer. les choses, la grande source d'amour.
C'est peut-être l'écho de la gratuité.
Et c'est peut-être l'écho de la gratuité, fondamentalement.
Oui, que vous ressentez.
Ah, je crois que c'est un moment donné, il me semble que c'est une expérience, je ne sais pas si c'est propre aux croyants, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est antérieur à la croyance, c'est-à-dire que, à un moment donné dans nos existences, il peut y avoir un tel débordement de gratitude. C'est tellement beau de voir un enfant qui naît, de se dire, j'ai 53 ans, donc on a 53 ans, on a une vie déjà, on peut dire, voilà, on peut se retourner avec l'image qu'on prend assez familièrement, en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon existence? Première chose, j'ai aimé, j'ai été aimé, j'ai trois filles merveilleuses, et donc je peux dire merci la vie. Bien sûr, les êtres que j'ai, qui m'ont porté au monde sont morts, je ne les vois plus, il y a eu l'adieu au visage, justement, du père et de la mère. Mais est-ce que cela suffit à engouffrer l'amour qui m'a été porté et l'amour que j'ai d'eux? Non, quelque chose est beaucoup plus fort que la disparition, que la mort. Et donc, à un moment donné, il me semble que dans nos vies, lorsque nous les regardons sérieusement, quelque chose déborde. Et ce débordement, alors là peut-être que la foi commence à ce moment-là, ou que là nous sommes dans un acte plus religieux de dire, de nommer, la source d'amour et puis d'adresser cette gratitude.
Nommer un village, Choisis la victoire, dans votre ouvrage. Choisis la victoire vous inspire. Ce sont des choix si concrets que vous évoquez dans ce monde que vous décrivez. Choisis la victoire est plus qu'un panneau au bord du chemin.
Choisis la victoire, c'est une anecdote là encore, parce que je tiens à ces petits éléments qui pourraient paraître totalement insignifiants. Donc il se trouve que jeune professeur, j'ai été nommé à Lille, pour nos auditeurs, donc dans le nord de la France, je prenais la voiture assez régulièrement, et sur le bord de la route, il y avait un panneau indicateur dans l'Oise. Je suis originaire d'un petit village de l'Oise qui s'appelle Chaumont-en-Vexin, et ce panneau indicateur nommait un village dans lequel je ne suis jamais allé, je n'ai jamais eu la curiosité d'aller, d'ailleurs, je le dis, ça fait partie de quelques négligences. Choisis la victoire, choisis Choisy, mais moi je l'ai toujours entendu, ce panneau, je ne pouvais pas le voir sans entendre une voix me dire « Choisis IS », comme un impératif, comme un conseil, mais un conseil fermement donné. Choisis la victoire. Dans ta vie, choisis la victoire. Qu'est-ce que c'est que cette victoire? La victoire, on pourrait se dire, c'est quoi? C'est belliqueux, la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais la vie est lutte, la vie est combat, en un certain sens. Le désenchantement est plus facile à recevoir du monde présent que, justement, les raisons d'espérer et les raisons de se sentir victorieux. Et ce « choisis la victoire », j'ai pu l'entendre d'une façon, je pourrais dire, terrestre et peut-être pragmatique en un premier sens, c'est-à-dire, dans ta vie, choisis peut-être, essaye, autant que faire se peut, ce qui t'élève. Ce qui te rend fier. Après tout, l'homme peut être mu par un désir d'accomplissement, des formes d'ambition, pourquoi pas. Mais évidemment, j'ai toujours entendu aussi ce « choisir la victoire » dans un sens plus, je ne sais pas s'il faut dire plus spirituel, mais de me dire « ne te laisse jamais aller à étriquer la vie, à l'enfermer dans des pensées qui la caricaturent, la dégradent. Et dans nos chemins d'existence, là encore, il est tellement tentant d'être dans le désespoir, tellement tentant d'être dans le nihilisme, de dire la vie n'est que une série d'enchaînements de causes et d'effets. Je pourrais dire cela, après tout, pourquoi pas. La science me donne des éclairages qui pourraient me satisfaire complètement et me dire, eh bien, je suis un ensemble de molécules, de je ne sais quoi. Et en même temps, quelque chose de l'essentiel de mon existence n'est pas nommé. Si je regarde le visage de ma mère, ou si je pense au visage de mon père, au visage de mes enfants, de la femme que j'aime, je ne vois pas des molécules, je ne vois pas des, de l'ADN, je vois autre chose, je vois quelque chose qui est lumineux, qui me dit que la vie vaut la peine d'être vécue, d'être savourée, d'être, elle est une très grande aventure, c'est une aventure extraordinaire. Et donc, voilà, se choisit la victoire, pour revenir à votre question, modeste panneau en bord d'une route, national, comme on dit en France, là encore m'indiquait probablement une cartographie plus intérieure.
Emmanuel Godot, vous me semblez être un homme de passion, heureux de vous lire, même de vous entendre, et d'entendre votre colère, qui revient comme des pulsions dans votre récit. On dirait que vous tenez une immense épée que vous faites tourner en tournant vous-même. Vous écrivez « La colère est l'ombre de la joie ». Laissez-vous aller.
La colère est l'ombre de la joie, oui. Oui, parce que évidemment la joie, on pourrait dire là, tout est dépassé. Mais je ne peux pas me résoudre là d'où j'écris, c'est-à-dire de quelqu'un qui est dans le monde et qui est confronté à nos sociétés. Je ne sais pas comment il faut les nommer, les identifier, mais arrogante, mutilante. Qui sont désespérantes. Avant même que j'arrive et vous voir, et vous-même ce matin, nous avons été confrontés en écoutant la radio, en lisant le journal ou je ne sais quoi, nous avons été éclaboussés d'injustice, de malheur, de l'arrogance des puissants, nous avons été blessés mille et une fois, et donc je tiens à la colère, je pense qu'elle est nécessaire dans le monde. Elle est aussi une preuve de vie, parce que je pourrais me dire détaché de tout, la joie pourrait, je pourrais me dire voilà, je peux me projeter mentalement dans un espace de sérénité. Et nos sociétés nous disent à la fois, elles sont très paradoxales. Nous sommes dans la catastrophe jusqu'au cou, c'est catastrophique. Et en même temps, il y a une sorte de complaisance à la catastrophe. J'ai l'impression que le seul horizon qu'on puisse donner aujourd'hui, je me dis quand on a 10, 15, 20 ans aujourd'hui, quelle est l'image du monde, quelle est l'image des sociétés qui est renvoyée continuellement par les discours médiatiques, c'est affolant. Est-ce que ça vaut vraiment la peine, tout cela, justement? Ça semble déjà plié d'avance, si je dis les choses familièrement, et on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Et alors, d'un autre côté, la société nous dit, eh bien, quand même, là-dedans, dans cette fournaise-là, dans ce bourbier-là, soyez heureux. Vous savez, c'est facile. Il suffit de lire des livres qui vous font du bien. Il suffit de vous mettre sur l'oreille un casque dans lequel vous allez mettre de la musique un peu planante, et puis vous allez partir. Il faut se détacher de tout ça. Et puis c'est très facile. Et je ne supporte ni l'un ni l'autre discours, parce que je crois que c'est l'avers et le revers d'une même volonté. D'engourdir l'homme contemporain. J'ai l'impression qu'il est engourdi de divertissement, il est engourdi de, il est excentré. On veut le priver, j'ai l'impression, de sa vie intérieure et de la conscience que nous évoquions précédemment, que la vie, quelles que soient ses difficultés, quelles que soient les luttes dans lesquelles les existences sont engagées, sont extraordinaires. Nous avons chacun un fil de vie à dérouler qui est potentiellement d'une force inouïe, malgré les vicissitudes, malgré les difficultés. Mais c'est une aventure, encore une fois, exceptionnelle. Voilà, c'est ça qui me met en colère dans le monde contemporain.
Vous faites un éloge aux poètes sans langue de bois. Vous pouvez en nommer quelques-uns ?
Des poètes, oui.
Sans langue de bois ?
Les poètes sans langue de bois, je cite Claudel, je cite Francis Jammes, hein, je cite René Guicadou, je pourrais citer, j'accompagne mon texte de beaucoup de citations qui sont extraites de poètes contemporains, Guy Goffet, j'aurais pu citer, je ne crois pas le citer dans ce texte-ci, mais je le citais dans Je n'ai jamais voyagé, Gaston Miron. Par exemple, je pourrais citer beaucoup de poètes d'aujourd'hui ou d'hier. Les poètes sont ces êtres qui réparent le langage que l'usage social défait, use. Les mots sont galvaudés. Il suffit que nous employions un mot, tout à coup il devient à la mode. Récemment en France, je ne sais pas si au Québec c'était la même chose, mais le mot bienveillance. On met le mot bienveillance à toutes les sauces, par exemple. Ça, c'est... Alors tout à coup le mot se vide, c'est un magnifique mot, il est superbe. Et puis tout à coup il se vide de sa substance parce qu'on l'a traité. Le mot même poésie peut être mis à toutes les sauces, publicitaires et autres. Et donc les poètes sont là constamment pour... retisser, redonner du sens, suturer les plaies que l'on assène au langage, parce que l'une de nos patries fondamentales, c'est notre langue, notre belle langue.
Ne manquez pas la semaine prochaine la suite de cette rencontre avec Emmanuel Godot, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui intitulé « Mais quel visage a ta joie ?» paru aux éditions Salvator. C'était « Un temps pour parler » avec l'abbé Denis Veilleux, à la recherche d'Annie Benz.